Here's the pumas. Down, down, double down.
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Alors bonsoir. Donc ce soir on reçoit des résidents de Locomotive. Donc il y a une structure autogérée dans le 7e. Donc on reçoit Benoît.
Bonsoir.
Et Pierre-Yves.
Bonsoir.
Donc vous faites partie de deux structures, deux associations. Donc Benoît qui est à Mobiped et Pierre-Yves à Framasoft. Donc on parlera peut-être de ces deux associations plus particulièrement. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de Locomotive, depuis quand ça existe, comment ça fonctionne, etc.
Très bien. Donc Locomotive trouve son origine en 2010. Plusieurs associations du quartier de la Guillotière avaient des difficultés pour trouver des locaux, sachant qu'elles avaient des salariés. Et donc elles se sont réunies en janvier 2010 afin de chercher un local qu'elles ont finalement trouvé Place Mazagran, à côté du court-circuit pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un lieu de 600 mètres carrés, loué auprès d'un bailleur privé, qui permet de mutualiser des locaux. Donc il y a une vingtaine de bureaux, qui sont soit des bureaux en propre, soit des bureaux partagés, avec des salles de réunion. Et l'idée étant de mutualiser pour réduire les coûts subis par les associations, tout en ayant une démarche de coopération entre les structures et d'animation du quartier de la Guillotière.
Et donc pour ça, vous avez créé une structure qui chapeaute le tout, ne serait-ce que pour pouvoir payer le loyer, signer le bail.
Voilà, exactement. Locomotive, c'est une association parapluie, on va dire, dans lesquels il y a les membres, il y a trois types de membres. Il va y avoir les résidents, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un poste de travail, qui vont travailler au quotidien dans les lieux. Il y a ensuite les usagers, qui eux vont utiliser les espaces mutualisés, donc les salles de réunion, des espaces de stockage, l'espace reprographie, et des sympathisants qui, à titre individuel, sont des chevilles ouvrières de Locomotive.
Et j'avais une autre question concernant le nom, je dirais, de l'association qui fédère le tout, Locomotive. Bon, l'objectif, c'est de se mettre en route quelque part. Et puis, je sais pas, Locomotive, enfin, racontez-nous.
Alors, c'est une excellente question. Moi, j'avoue, j'avais jamais posé la question. Je pense que déjà, locaux, c'était pour les locaux partagés. Faut voir qu'au niveau des noms, je pense que historiquement, ça a été monté aussi par. Enfin, il y avait une forte participation d'une autre association qui s'appelle les Verts Solidaires. Enfin, qui s'appelait les Verts Solidaires. Donc, je pense que déjà, on aimait un peu les jeux de mots sur les noms d'associations. Et c'est sûr que ça, il y a à la fois le mot locaux. Et le côté motive, c'était aussi pour dire qu'il y avait une dynamique et que ça n'était pas que un lieu de travail.
Sachant que nous deux, on n'était pas présents au lancement de Locomotive, donc on s'y est fait très bien en intégrant.
On a pris la Locomotive en route.
Et dans motive, il y a l'idée de motivation. Donc moi, quand j'ai un petit peu cherché à comprendre votre association, il y a l'idée de mutualisation, d'animation, de coopération. C'est-à-dire quelque part, donc c'est une structure. Enfin, j'ai cru comprendre que
c'est une holding.
Oh là là. Donc cette holding, cette pépinière d'entreprise, l'objectif, enfin par rapport à la motivation, c'est quoi? C'est quelque part, c'est de se donner un élan ensemble aussi pour aller plus loin. C'est pas seulement trouver des locaux.
Alors le premier slogan entre guillemets pour décrire Locomotive, c'était lieu mutualisé ouvert à tous, et petit à petit, au fil du temps, c'est un projet vu qu'il est autogéré, ce sont les personnes présentes qui le développent et qui se l'approprient, et aujourd'hui on est plus dans un lieu qui facilite les initiatives au cœur du quartier de la Guillotière. Donc c'est vraiment de l'accompagnement. Il y a à la fois des associations, des entrepreneurs, des collectifs informels.
Et puis du coup, il y a des, parce qu'on n'a pas parlé de, du type d'asso, mais il y a des choses complémentaires en fait, parce que vous avez aussi des graphistes. Donc c'est vrai que il y a différents métiers du coup qui peuvent, qui sont complémentaires.
Le fil rouge de, au niveau de toutes les structures qui sont dans, dans Locomotive, c'est qu'elles adhèrent toutes à un manifeste de Locomotive, qu'on, une charte qu'on, avec laquelle on se dit d'accord lorsqu'on arrive. Et le fil rouge, on peut dire, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est ce qui regroupe et c'est ce qui fait le point commun, le lien entre toutes les structures qui sont dans le lieu. C'est-à-dire que on, toutes les entreprises sont évidemment accueillies, mais pour participer activement à Locomotive, il faut avoir quand même cette dimension d'économie sociale et solidaire qui va faire le lien entre toutes les structures qui sont présentes.
Avec toute une logique de bienveillance, de travail ensemble, vu qu'on est en autogestion, il faut qu'on puisse bien s'entendre et que les personnes s'investissent chacune dans le projet. Et ce qui est vraiment génial à travers ce projet, c'est qu'on est, il y a vraiment une dynamique sociétale, le sentiment de participer à un projet de société, parce qu'il y a à la fois des structures qui sont dans la solidarité, d'autres dans l'environnement, d'autres dans la culture, d'autres dans le numérique ou dans les médias. Donc c'est un panel très large d'organisation. Et chacun vient apporter sa petite pierre à l'édifice.
Quand vous avez participé, alors je ne sais pas, est-ce que dans la charte ou les principes, il y a aussi une obligation de pas seulement, voilà, je paye le loyer, j'ai mon bureau, mais de temps commun ou de choses à faire en commun?
Alors, il y a... C'est pas marqué tel quel en termes d'obligation, c'est plus une invitation à la participation bénévole. On est structuré en 7 commissions. Commission nouveaux entrants, communication, environnement de travail, coopération, finance, institutionnelle et juridique. Et donc chaque membre de l'association est invité à contribuer à une des commissions pour pouvoir donner vie au lieu.
Et pourquoi vous vous êtes basé à la Guillotière? Pourquoi ce lieu? Pourquoi c'est ce quartier de Lyon?
Excellent.
Alors, les fondateurs, est-ce que vous nous entendez?
Pas mal d'associations et c'est assez
voilà,
vivant.
C'est un quartier qui bouge énormément. C'est un quartier aussi, c'est bête à dire, mais où le loyer est moins cher que dans d'autres coins de Lyon. C'est un quartier où historiquement, il y avait un besoin pour les associations aussi de se pouvoir se regrouper, et associations et entreprises, parce que encore une fois l'idée c'était pas juste de faire un espace de coworking comme il y en a plusieurs à Lyon.
C'est pas une maison des associations,
exactement, c'est ce qu'on appelle un tiers lieu, c'est-à-dire un espace un peu hybride où on va accueillir des gens qui ont envie de faire des choses, qui font déjà des choses, et en faisant en sorte que petit à petit, il y a une émulation qui se crée et qu'il y a des projets à la fois créatifs, une forme de solidarité qui émerge de tout ça et qui font que bah, finalement, quand on va se retrouver tous ensemble, il se passe des choses qui ne se seraient pas passées si on avait continué à travailler séparément.
Et pour répondre à la question de pourquoi la Guillotière, un des constats qui avait été fait, c'est qu'il y avait une offre très importante de bureaux et de locaux vides. Et donc c'était, ben, pourquoi ne pas profiter de ces espaces.
Vous disiez au début, c'était d'ailleurs plutôt des associations du quartier qui cherchaient un local. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comme il y a des nouveaux, les nouveaux, ils ne viennent pas forcément du quartier?
Alors, dans le dossier de candidature, on demande ce que les structures font dans le quartier. Après, on n'est pas fermé sur le quartier. Ce qui est important, c'est l'implication dans le projet, qui lui-même contribue à l'animation du quartier.
Et pour autant, à un moment donné, il y a eu le mot de holding. Enfin, j'ai cru comprendre que dans votre structure, il y a des associations qui participent, mais aussi des entreprises. Quelque part, pour autant, la Guillotière, il me semble pas que ce soit une zone franche. On peut peut-être se dire qu'à un moment donné, vous bénéficiez de cette offre, pas pléthorique, mais un peu surabondante de bureaux non occupés. Enfin, je sais pas, est-ce que financièrement c'était aussi plus intéressant pour donner une impulsion à ces associations, à cette volonté?
Alors, clairement, donc moi j'ai fondé Mobiped, qui est en fait une entreprise. Pourquoi je suis venu à Locomotive, c'est que j'avais créé ma structure quand j'étais à Paris dans mon studio de 15 mètres carrés. J'ai travaillé et vécu pendant 2 ans dans mon bureau, ensuite je suis revenu 1 an chez mes parents à Lyon. Et donc je cherchais à séparer vie pro, vie perso, sans avoir beaucoup de finances. Et donc ça permettait d'accéder à un bureau. Donc j'ai 12 mètres carrés, je paye 300 euros par mois, ce qui est pas cher par rapport aux offres institutionnelles. Et en plus, ça permet de découvrir d'autres structures, d'autres compétences, et d'avoir une vie sociale. Et ça a permis de générer des relations assez fortes. On a fêté nos 3 ans samedi dernier à de l'autre côté du pont. Donc voilà, c'était une belle fête entre amis, au-delà du fait de participer ensemble en tant que bénévole à Locomotive.
Et pour autant, est-ce que du coup, vous bénéficiez peut-être d'une plateforme téléphonique globale. Enfin, est-ce que vous mutualisez vos coûts aussi pour impulser, pour donner de l'élan à vos idées.
Alors, je donne la parole au référent réseau.
Non, je déconne. évidemment, un des objectifs et une des raisons pour laquelle un certain nombre de structures viennent à Locomotive, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de possibilités de mutualisation dans l'usage des locaux qui est intéressant. Faut imaginer, c'est quand j'essaye moi d'expliquer ce qu'est Locomotive, c'est un peu une espèce de colocation à 35, je parle pour les résidents, hein. Il y a évidemment des usagers, des associations et des structures qui vont avoir une boîte aux lettres, mais pour ceux qui sont dedans, forcément ça nous permet d'éviter à chacun d'acheter tous une imprimante. Ça permet de mutualiser une connexion internet pour l'ensemble des résidents, ça permet d'utiliser une cuisine et de partager tout ce qui va être vaisselle, repas, etc. ensemble, et c'est ça aussi, et c'est via à la fois c'est se retrouver devant la machine à café, se retrouver devant l'imprimante, se retrouver devant un repas partagé, qui va faire que ça va créer du lien entre des structures qui à la base ont pas grand chose en commun, si ce n'est encore une fois ce lien de l'économie sociale et solidaire.
Et pour revenir à la genèse du projet, un des besoins pour les associations, ça va être d'avoir des conseils d'administration, donc beaucoup de personnes pour des réunions. Donc on a 3 salles de réunion, une de 19 personnes, une de 8 personnes et une de 4 personnes. Donc ça c'est un vrai besoin utilisé au quotidien par les résidents et les usagers pour pouvoir faciliter les réunions.
Et quelque part, on a parlé de la guillotière, je sais pas, dans le site vous mettez en avant quelque part aussi le quartier a été choisi parce que c'est un peu un lieu d'accueil sur Lyon de multiples nationalités, etc. Donc ça c'était un peu la première partie de ma réflexion. Et la deuxième idée c'était, qu'est-ce que vous avez apporté ? Concrètement, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous apportez à la guillotière, du coup ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je pourrais parler. J'étais hier une des premières réunions du Festival Mazagran, qui a lieu depuis 3 ans maintenant à la guillotière. Et donc, sur la place Mazagran, et qui est un festival, là aussi... géré en grande partie par des bénévoles, voire quasiment exclusivement bénévoles.
Donc Locomotive l'a porté administrativement la première année. Ensuite, c'est le collectif du ZEM. Et là, il y a une association qui a été créée dans laquelle beaucoup d'acteurs de Locomotive sont présents. Locomotive accueille tout le stock, les bénévoles et le catering du festival. Et contribue à cette animation.
Donc en clair, ce qu'apporte Locomotive par exemple ici pour le Festival Mazagran, c'est une infrastructure avec des gens qui sont là, qui sont présents et qui vont pouvoir aider, on va dire accélérer un certain nombre de projets en étant en lien en permanence avec des structures, avec des élus, etc. Et ça permet aussi de construire un projet, ici un projet de festival qui se développe dans le temps. Mais il y a beaucoup d'autres types d'animations qu'on peut faire aussi.
Donc là, le projet, on a fêté simplement nos 3 ans. Il y a une première phase vraiment pour consolider l'aspect mutualisation qui est aujourd'hui autofinancé. Donc on a refait des travaux dans les locaux, on a essayé de mettre en place un bon fonctionnement de travail qui est une des bases du projet. Les volets coopération et animation sont venus un petit peu en deuxième temps. Donc là maintenant, il y a Emmanuel Joas qui est chargé de développement, dont le poste est financé en partie par la région Rhône-Alpes, et dont l'objectif est de développer des animations. Donc on a plusieurs temps d'animation. Tous les premiers mercredis du mois, on a un apéro découverte, donc où on s'ouvre sur le quartier, parce que malheureusement, on n'a pas la capacité d'avoir un accueil personnalisé. Donc ce qui fait que la porte au quotidien est fermée. Donc tous les premiers mercredis du mois, à 18h30, on accueille des personnes du quartier en présentant une des structures. Donc la prochaine sera TADA, qui est un collectif qui s'est monté dernièrement entre trois bénévoles de Locomotive qui sont rencontrés à Locomotive et qui vont travailler autour des informations interactives de mutualisation, d'accompagnement, de concertation.
Donc quelque part, cette pépinière collaborative, au départ, vous vous êtes aidés les uns les autres quand vous racontez votre histoire. Au début, je vis à Paris, je mélange tout, vie professionnelle, vie privée, etc. Au-delà du fait de vous être aidés, enfin dans cette structure qui n'a que 3 ans, elle est très jeune, vous êtes actuellement créateur d'emploi dans notre Sinistrose, hein, dans le mot positif, je trouve.
C'est ça. Donc il y a un emploi qui a été créé, on espère pouvoir le consolider à terme. Après, l'idéal, ce serait d'avoir une personne qui soit vraiment à temps plein, aussi pour le volet mutualisation. Ça, c'est plus mon avis personnel. Mais il y a des, en termes d'emploi aussi, il y a plusieurs structures qui ont collaboré. Donc, par exemple, le jardin partagé Brindille avec l'association de l'atelier des friches qui mutualise un emploi. Donc, ça permet aussi de combiner des sources de financement pour pouvoir créer des emplois. Et qui a interagi sur les deux structures.
Je peux donner un autre exemple de collaboration qui, moi, me concernait directement. C'était, moi, je travaille dans un bureau où on est 5 structures différentes. Moi, je suis tout seul, du coup, pour Framasoft, mais il y a 4 autres structures qui partagent le même bureau que le mien. Et notamment, juste à côté de moi, j'ai la Société des Apaches, qui est une société qui fait du documentaire, une société de production, et qui avait notamment réalisé un documentaire qui s'appelle Noé Suna Crisis, sur la non-crise, en fait, en Espagne. Et qui démontrait un petit peu... que la situation espagnole et notamment sur le mouvement des indignés etc. Et c'était pour nous intéressant parce que quand ils ont sorti leur web documentaire, ils se sont retrouvés plantés par leur partenaire technique qui devait diffuser la vidéo sur internet. Et on s'est retrouvé avec un documentaire qu'on pouvait pas regarder ni sur les portables ni sur les Linux, donc ce qui nous touchait particulièrement parce que moi je fais du logiciel libre. Et du coup on s'est pris un week-end j'ai demandé à des bénévoles aussi s'ils pouvaient venir nous aider, et on a fait une version de leur site, enfin de leur documentaire, qui elle était accessible pour tous en dans des technologies qui passaient partout. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver ailleurs qu'à Locomotive. C'est juste que eux produisaient un documentaire dont les valeurs nous semblaient intéressantes, le message porté était intéressant, et on s'est dit c'est quand même dommage qu'ils puissent pas le diffuser, d'autant plus qu'il était sous licence Creative Commons, donc des licences libres. Et nous on trouvait ça dommage que ça reste dans un carton. Donc ça tombait bien, ils avaient à côté d'eux une association qui faisait du logiciel libre et qui leur a dit bougez pas, on se prend un week-end à 5-6 bénévoles. On vient, on s'est mis à Locomotive d'ailleurs pour travailler, vu que dans une salle de réunion, on a bossé tout le week-end et à la fin du week-end, on avait un webdoc.
Voilà, typiquement, si vous aviez pas été du coup dans le bureau d'à côté, ils n'avaient pas forcément dans leur carnet d'adresses ou des connaissances qui auraient pu les dépanner.
Exactement, et puis surtout pas au dernier moment. Et surtout pas, en plus, nous on l'a fait bénévolement parce que le webdoc était sous licence libre. Et encore une fois, en termes de valeur et d'éthique, on trouvait que le message que portait le webdoc méritait d'être porté auprès du grand public.
Donc là c'était bénévole, mais est-ce que vous avez des systèmes de coopération qui sortiraient du système monétaire, justement? Est-ce que vous pratiquez une espèce de sel entre vous?
C'était pas du sel, mais enfin bon, c'est pratique aussi. On n'est pas obligé, justement, même en sortant du sel.
Sans que ce soit.
Voilà, exactement. Enfin, il y a un moment donné où on fait les choses aussi parce qu'on s'entend bien avec les gens et on n'attend pas forcément de retour. Il se trouve que à un moment donné ou à un autre, cette société de production de documentaires, etc., nous filera peut-être un coup de main sur autre chose. Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, enfin on n'attend rien spécialement d'eux. On n'a pas besoin de collecter du coup et de rentrer dans un système d'échange calculé, quel qu'il soit, que ça soit celui d'un sel ou celui d'un échange monétaire. Voilà, on fait aussi des choses par solidarité.
Oui, vous attendez pas le retour direct,
non.
À la limite.
Non, il y en avait aucun. Ouais. Pour nous, il y en avait aucun et c'était pas du tout l'objectif. Encore une fois, je le répète, dans ce cas particulier, ils sortent un webdoc, il est en plus sous licence libre, ce qui est assez rare, mais on peut pas le voir sous Linux, donc. Moi, ça me faisait un petit peu mal au cœur. OK, on va se prendre un week-end, on va le faire. Ah, puis vous êtes planté par Dailymotion au dernier moment. OK, pas de problème. On va regarder, nous, dans notre réseau, si on a des gens qui ont de la bande passante suffisante pour diffuser votre web documentaire. Et on a trouvé.
Et là, tu disais, ça s'est passé aussi, tu as eu connaissance de leur problème parce que tu étais dans le même bureau.
Oui.
Mais est-ce que vous avez aussi, pour les 35 résidents, et puis peut-être aussi par rapport aux autres usagers, des moments un peu réguliers de connaissance, des projets des uns des autres
Alors, pas encore. On vient de refaire une partie de la signalétique et on prévoit de faire un planning qui décrit quels sont les événements de chacune des structures, justement pour faciliter la compréhension des activités de chacun et des besoins. Après, on a un temps tous les jeudis qui s'appelle les jeudis oui, où chacun peut venir présenter son projet. Donc il y a eu un atelier pour fabriquer des livres. Je travaille sur la signalétique de Lyon-Perrache pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai présenté mes projets à l'avis des personnes qui étaient présentes. La semaine prochaine, ce sera sur les MOOC, donc les formations en ligne. Chacun est libre de venir proposer ces thématiques pour justement échanger, bénéficier des retours.
Et les gens soient au courant de ce que chacun fait.
Je rajouterais qu'il y a aussi le fait que les couloirs, je reviens sur la machine à café, se retrouver devant l'imprimante, etc. Le fait de déjeuner ensemble,
mange pas forcément à 35.
Là aussi que s'échangent les infos et on est quand même relativement, je trouve, au courant de qui fait quoi. Comme disait Benoît, après il faut qu'on arrive à identifier sans doute plus précisément quels sont les besoins, parce qu'il y aurait sans doute des choses à affiner, à optimiser là-dedans, mais le fait de boire un café avec quelqu'un et de dire ah tiens au fait et comment va toi ton association qui fait une asso artistique ou culturelle, comment ça se passe, les jeunes publics, ah bah tiens on rencontre telle problématique, ah ouais moi je connais quelqu'un qui a rencontré le même problème et voilà, discuter ensemble et comment est-ce qu'on peut résoudre ça.
Je pense qu'il n'y a pas qu'à identifier les besoins, il y a aussi vos diverses compétences qui peuvent être utiles et mobilisées par d'autres.
C'est ce que j'allais dire, c'est du troc informel de compétences et le fait qu'on soit en autogestion, il y a une forte implication bénévole en termes de temps pour faire vivre le projet, ce qui fait qu'on travaille ensemble et ces interactions liées au fait de travailler ensemble sur le projet locomotive permet de créer des liens aussi avec nos propres activités.
Et puis du coup, vous pouvez aussi mutualiser vos carnets d'adresses, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide sur certaines choses.
C'est ça, typiquement là je réponds à un appel d'offres pour la mairie de Paris sur la mise en place de vélostations. Et donc j'avais besoin d'un architecte et il y a Magda qui est architecte dans mon bureau voisin qui elle n'avait pas les compétences que je recherchais mais qui m'a tout de suite mis en relation avec deux personnes. C'est des compétences très diverses en termes on va de 20 ans à 60 ans. Enfin c'est un lieu très diversifié. Des profils très différents, des associations, des entreprises, des entrepreneurs. On a tous à apporter quelque chose de façon informelle dans le projet.
Et quelque part, définir votre structure en termes d'économie sociale et solidaire, je crois que la solidarité, on en a entendu parler. Le côté social, où est-ce qu'il ressort quelque part? Enfin, de quelle manière?
Il y a déjà la première chose qui est inscrite dans le projet locomotive, c'est l'animation sur le quartier. Donc c'est faire du lien entre les habitants du quartier et faire découvrir aussi ce quartier à d'autres personnes. Donc tout à l'heure je parlais du festival Mazagran, mais c'est aussi les coding goûter qui sont organisés maintenant depuis peu, dont Benoît pourra vous parler.
Voilà, donc ce sont les goûters découvertes qui s'adressent à des enfants de 7 à 12 ans du quartier. Et donc l'objectif c'est de faire découvrir aux plus jeunes les métiers notamment qui sont présents au sein de Locomotive. Donc des associations, des entreprises peuvent présenter et informer les enfants sur les activités qui sont menées. Et donc le prochain, ce sera le 22 novembre, qui est animé par l'équipe du magazine Patatras, qui est un petit magazine gratuit, diffusé un peu de partout, toujours très ludique, très marrant à lire. Voilà, ce sera le 22 novembre de 14h à 17h et il y a un goûter qui est offert. Donc ça contribue à l'animation du quartier, à l'ouverture.
Donc là, c'est ouvert sur le quartier.
En fait. Oui. Ouais.
Et là, ces idées justement de goûter pour enfants, pour présenter des métiers, c'est venu d'où? C'est venu de vous? Est-ce que vous répondez aussi à des demandes qui viennent des gens du quartier qui viennent vous voir?
Alors. Des demandes, je dirais peut-être de façon indirecte. Après, c'est la commission finance et maintenant la chargée de développement répondent à des appels à projets autour de l'éducation populaire pour justement avoir des financements et contribuer à cette animation du quartier.
Et ça se fait aussi tout simplement parce que il y a des parents qui sont à Locomotive et qui se disent tiens, on aimerait bien avoir ça pour nos enfants. Et ce que je trouve intéressant moi à Locomotive, c'est que on n'est pas passif, justement, on profite du fait d'avoir un lieu et des gens qui sont très diversifiés, ce qui crée de l'émulation et de l'énergie pour se dire bah tiens, on va pousser un petit peu et on va transformer cette énergie en action concrète. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur les goûters découvertes.
D'accord, on va faire une petite pause musicale. The sky is gray.
And it's a chill roll down my nose.
Donc on continue à discuter en off. Donc il y a plein de choses qui se passent, qui sont intéressantes. Donc vous nous parliez du coworking tour. Donc il y a un réseau à maille plus départemental ou sur d'autres lieux dans d'autres villes.
Alors Locomotive donc a intégré dernièrement le coworking, a signé une charte du coworking, chapeautée par le Grand Lyon et surtout qui rassemble les différents espaces de coworking comme le comptoir éthique, l'accordé.
L'atelier des médias,
il me semble. L'accordé, c'est quoi? C'est celui Villeurbanne?
Non, ils ont deux lieux, je crois, maintenant. Ils en ont un dans Lyon et peut-être un à Villeurbanne, ouais.
Oui, il y en a un qui est pas très loin, qui court de la Liberté, je crois, vers la Guillotière. Donc c'est une autre démarche, qui est plus entrepreneuriale. Mais il y a quand même un partage des valeurs, et donc c'est intéressant qu'il y ait cette coopération entre les structures. Et donc, début octobre, il y a eu le coworking tour, avec une visite de ces différents lieux, puis réception, au Grand Lyon. Et donc ça a permis à de nombreuses personnes de découvrir ce qu'est le coworking et aussi aux différentes structures de se mélanger, de se rencontrer.
Et au niveau de la rotation, enfin c'est une structure qui est créée depuis 3 ans. Est-ce que depuis 3 ans, les participants, ça a beaucoup bougé? Il y a eu un fort turnover? Est-ce que...
Moi, je trouve que ça tourne quand même beaucoup, parce que, notamment au niveau des associations, souvent la situation peut être un peu précaire. La situation du milieu associatif aujourd'hui en France est quand même pas hyper reluisante. Moi, ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans, enfin, ça va faire 2 ans et demi que j'y suis, et on a vu quand même tourner pas mal de structures. Il y a des structures qui vont grossir et l'espace étant limité, ils arrivent à un, puis ils embauchent 2 autres personnes, il y a pas de place, éventuellement ils vont aller voir ailleurs. Il y a des associations ou des structures qui vont mettre la clé sous la porte, tout simplement il y a des associations qui préfèrent au bout d'un moment prendre leur lieu, et donc on revient sur cette notion un petit peu de pépinière. Donc j'ai pas de taux de pourcentage de turnover, mais tous les ans, on a quand même pas mal d'entrées et de sorties.
Oui, je dirais 4-5 entrées par an.
Ce qui veut dire que régulièrement, il y a des bureaux de livres, des nouvelles personnes qui...
Tout à fait, alors c'est ça. Et il y a aussi des mouvements internes, où il y en a qui vont être dans un bureau, puis qui vont migrer vers un autre bureau, genre Abicop qui a fait 2-3 bureaux différents, selon les besoins en termes de capacité des pièces. Mais là aujourd'hui, on est rempli à 100% en termes de résidents. Par contre, on a quelques petits travaux de bricolage à faire, mais on va ouvrir des postes nomades, 4 à 6 postes nomades pour des personnes qui veulent
venir à la journée,
retrouver une vie sociale. Plutôt que de rester chez eux.
Qui bosserait de chez eux et qui voudrait venir dans un espace.
C'est de trouver encore là une formule un peu hybride entre le fait d'être résident comme Benoît ou comme moi, qui sommes là, on va dire, 5 jours sur 7 quasiment, voire plus parfois, et des gens qui vont vouloir venir une fois de temps en temps parce que ils sont soit de passage à Lyon pour 2-3 jours, tout simplement parce que à un moment donné, ils ont envie de rencontrer des vrais gens. Enfin, moi, ça a été mon cas. J'ai fait du télétravail pendant 4 ans. Au bout d'un moment, on pète un câble et on a envie de sortir et de rencontrer des gens qui font complètement autre chose, quoi.
Et du coup, est-ce que outre les structures associatives, vous êtes 2 créateurs d'activités apparemment, est-ce que les entreprises qui se retrouvent un petit peu dans cette pépinière collaborative sont plus des entreprises en essence ou en impulsion? Ou des entreprises qui se relancent, ou quelque part il y a des gens qui sont déjà lancés depuis un bon moment et qui...
Alors je dirais qu'il y a 3 profils. Il y a des indépendants, donc architectes, paysagistes, Mabo, Marine Bourron, il y a Emma Lidbury qui est graphiste. Il y avait Jonathan qui était indépendant mais qui est parti. Il y a ensuite des SARL, donc la Société des Apaches, Société d'audio, de production audiovisuelle et de documentaire, Mobiped en conseil en mobilité durable, où là, moi je suis tout seul, j'avais une infographiste et un stagiaire, maintenant je suis seul. La Société des Apaches, ils sont deux à avoir un bureau. Et ensuite, il y a des deux autres cabinets d'études dans la méthanisation et l'analyse du cycle de vie, où là en fait sont des filiales, enfin sont des antennes lyonnaises, donc sont des groupes internationaux, et comme ça ils ont un petit bureau avec une antenne.
Ils ont un pied de terre
à Lyon. Et je rajoute même un autre profil qui sont les salariés de coopératives d'activité. Moi, dans mon bureau, j'ai deux personnes qui sont. C'est quelque chose de relativement récent. Donc, les coopératives d'activité sont en fait des salariés qui deviennent salariés justement d'une entreprise un petit peu particulière. Ils sont coopérateurs de cette entreprise. Cette entreprise les aide et leur apporte une aide sur à la fois la création, la gestion, l'accompagnement de l'entreprise, la partie comptabilité, par exemple, etc. Et en échange, ils reçoivent un salaire mensuel en fonction de l'activité qu'ils vont apporter dans cette entreprise.
C'est des trucs style comme Oxalis ou
exactement.
C'est ça.
Voilà, c'est exactement. Exactement.
Donc là, les différentes structures qu'on vient de citer, la plupart étaient présentes mardi, même si c'était un jour férié, du fait que quand on est indépendant, il faut pas travailler.
Et
ouais, juste, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, une association, quelqu'un qui vient résident, il y a une durée minimum sur laquelle on s'engage ou
alors,
pas...
théoriquement, on a une dédite avec le propriétaire de 6 mois. Donc, quand on s'engage pour avoir un bureau, on s'engage pour 6 mois minimum. Enfin, il faut qu'on puisse payer le loyer pendant 6 mois, mais vu qu'il y a un grand turnover... il est assez facile de trouver une autre personne. Et, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça.
Et j'ai peut-être décroché à un moment donné, lorsque vous racontiez un petit peu la genèse de l'association, mais vous avez parlé des créateurs tout à l'heure. Enfin, je crois qu'il faut un peu les mettre en avant, parce que quelque part, merci à eux, quoi. Et qui sont-ils concrètement? Je ne crois pas qu'on en ait parlé, non?
Non, pas spécialement, mais ils sont multiples et variés, et ils sont surtout partis pour la plupart vers d'autres projets.
Donc il y a Jocelyn qui a vraiment porté le projet à la base. Après, je pense que ce qui est intéressant avec Locomotive, c'est que il n'y avait pas que Jocelyn, il y avait toute une équipe derrière, et le projet fonctionne avec l'énergie vitale des personnes présentes sur le moment.
Ce qui est bien, c'est
merci à eux d'avoir réussi à créer ça.
Où il y a des initiateurs et qui arrivent à continuer à vivre, alors que les fondateurs sont partis.
Ouais. Tout à fait.
Ça veut dire que c'est quelque part c'est sain. Ça veut dire que les fondateurs sont pas non plus accrochés.
Non, tout à fait.
À la structure,
ils sont plus là, tout simplement. Ouais. Et ça continue.
À vivre sa belle vie.
Alors il y a quelques associations qui sont toujours présentes.
Oui, qui étaient là au début, mais qui étaient pas forcément là dans la création, le montage du projet, mais qui souhaitaient investir le lieu au départ et qui sont toujours là. Après, comme toute association, on va pas dire non plus que c'est à la fois ça se passe vraiment très bien, et je pense qu'on est tous ravis d'être à Locomotive. Maintenant, ça réclame le fait d'être un lieu autogéré, ça réclame du temps, ça réclame de l'énergie, et heureusement que on a des gens qui s'investissent, même si c'est pour 1 an, 2 ans, et qui vont aller être au bureau, on va dire, de l'association et passer du temps sur la compta, les relations institutionnelles, etc. Voilà, et tout ça se fait par cycle. Il y a des moments où on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, où on connaît pas suffisamment le projet, et puis on prend confiance en soi, on finit par connaître un petit peu les rouages et de l'association et de tout ce qui gravite autour, et puis à un moment donné on va y passer plus de temps, s'investir, etc. Mais là aussi, donc on parlait du turnover des associations, mais il y a aussi un turnover des personnes dans l'énergie qui est mise, et c'est heureusement, et ça permet de garder quelque chose de sain aussi, avec des personnes qui vont changer régulièrement.
Donc merci aux bénévoles.
Voilà. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des résidents, mais comment ça se passe avec les usagers? Est-ce qu'eux aussi ils tournent? Quelle est leur relation avec Locomotive?
Alors pour donner un exemple, l'arbre à légumes, aussi en termes d'animation du quartier, donc qui distribue des paniers à MAP. donc qui est usagé du fait qu'ils utilisent le hall de locomotive, ont cette cette visibilité sur le quartier. Là, dans le cadre des 3 ans, donc locomotive vient de d'avoir l'attribution de la gestion de la plateforme Rhône Solidaire. Donc dans ce cadre-là, il y a eu un temps officiel à locomotive samedi dernier avant les 3 ans, et dans la suite il y a eu un petit temps d'ouverture avec 5 ou 6 structures usagères qui avaient un petit bureau, un petit stand où les personnes pouvaient venir découvrir leur activité.
Y compris des usagers récents comme la Gonette, qui est une monnaie locale qui est en train de se monter sur Lyon, ou qui s'est lancée, mais pour l'instant qui est toute récente sur Lyon, et voilà, qui est aussi ou je sais pas, je pourrais citer les Colibris à Lyon ou d'autres associations de ce style là qui voilà, qui non seulement trouvent un lieu sur lequel il va y avoir des locaux pour faire leurs réunions, mais sur lesquels elles peuvent aussi organiser des événements, participer à des événements.
Voilà, si pour un événement, ouais, du coup elles ont un lieu,
voilà, exactement. Et puis, ben, nous, ça nous permet aussi, lorsque c'est gagnant-gagnant, dans le sens où lorsque nous, on va organiser, par exemple, ben, justement, les 3 ans de locomotive, donc avec à l'intérieur, on va dire, une certaine énergie qui est portée par les gens qui sont là régulièrement à locomotive, qu'ils soient résidents ou bénévoles usagers, et qui vont du coup aussi mettre en avant ces autres projets. Et inversement, ben, nous, ça nous sert aussi pour montrer la diversité et la richesse du lieu.
Et est-ce que Locomotive sort des fois de ses locaux, puisque vous mutualisez, vous coopérez? Est-ce que ensemble, par moment, vous arrivez à coopérer sur le message que vous faites passer, vous mettre en avant? Enfin, là, ce soir, c'est un peu ce qu'on fait, mais au-delà de ça.
Alors, ça se fait un petit peu. Alors, je sais qu'il y avait des participations à des salons, mais ça fait un moment, enfin, où il y avait des petits stands autour de l'économie sociale et solidaire. Je dirais, en termes d'ouverture, on a fêté les 3 ans à de l'autre côté du pont. Donc voilà, on est sorti de nos locaux.
Et on peut le faire régulièrement. On n'a pas, enfin, encore une fois, le but n'est pas de devenir énorme ou voilà, c'est d'avoir une vraie d'être en capacité à la fois de fournir des locaux qui vont bien, d'animer sur le quartier. Ce qu'on souhaite surtout partager, c'est notre expérience, notre tour d'expérience sur voilà, comment je monter, gérer, expérimenter dans ce type de lieu.
Voilà, si d'autres personnes veulent créer à la limite d'autres lieux comme ça sur le Grand Lyon, quoi.
Et ça se fait régulièrement. Tout à l'heure, Benoît parlait du coworking tour. Voilà, on échange beaucoup sur les pratiques et les usages autour de ça. Et il y avait, je sais plus, on a participé à la Witcher Fest l'an passé, des choses comme ça, où on va expliquer finalement comment fonctionne le lieu, et puis partager notre expérience et prendre le partage d'expérience aussi que les autres veulent bien nous donner et échanger autour de nos pratiques.
Voilà, il y a une commission institutionnelle aussi qui est là pour ça. Et un point important, c'est que une des décisions qui a été prise, c'est de pas avoir automatiquement de message de locomotive en lui-même. Par exemple, il y a eu la rénovation de la place Mazagran, qui a créé différentes tensions vis-à-vis du processus de concertation. Le positionnement de locomotive était pas de dire locomotive pense ça, parce qu'il y a une telle diversité d'acteurs.
Chaque association garde sa libre.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Donc c'est plus un relais d'information pour que chaque acteur puisse s'approprier les différentes
thématiques. Oui, vous faites plus porte-voix, mais après chaque association peut délivrer son message.
C'est ça,
tout
à fait.
D'accord.
Il n'y a pas de positionnement politique. C'est très important d'avoir cette indépendance au niveau de locomotive.
Ça reste avant tout un outil au départ.
Oui, tout à fait.
Donc oui, il faut aussi le concevoir comme ça, parce que comme on disait, il y a du turnover pour que ça continue également de la même façon. Comme on dit, il n'y a pas forcément une mainmise des fondateurs comme ça peut exister dans d'autres structures.
Ben comme beaucoup d'associations, le principe c'est que si tu as une bonne idée, ben c'est toi qui l'as fait. Donc c'est qui veut s'investir, s'investit. Et donc c'est la personne qui s'investit qui va mettre en œuvre une action qu'elle veut mettre en place. Après, il y a quand même un travail d'échange en amont, mais c'est vraiment en termes de décision, on a un conseil d'administration, on a un bureau, mais ça vient beaucoup de l'initiative personnelle et en essayant de fédérer d'autres personnes pour pouvoir mettre en œuvre les actions.
Donc là, on a, bah, du coup, on a parlé effectivement des locomotives comme outils, comme facilitateurs. Comme on a deux exemples de structures, est-ce que vous pouvez nous parler, bah, pour finir, un petit peu de chacun de votre structure, qu'est-ce que vous faites, dans quel contexte, etc.
Les Gaulois commencent.
Allez, je commence. Donc moi, je représente une association qui s'appelle Framasoft et qui fait depuis plus de 10 ans maintenant la promotion du logiciel libre en particulier, mais de la culture libre en général. Donc la culture libre, c'est Wikipédia. Le logiciel libre, c'est Firefox, Linux, etc.
Framapad sur lequel on fait.
Voilà.
Notre agenda ici.
En fait, on a longtemps été connu pour faire la promotion du logiciel libre à travers un annuaire. Donc en gros les pages jaunes du logiciel libre, parce que c'est un peu bordélique le logiciel libre, il en existe plusieurs dizaines de milliers, et donc c'était d'expliquer où trouver quel logiciel pour quel besoin. Et puis petit à petit on s'est intéressé donc à la culture libre, donc on a monté une maison d'édition de livres libres qui s'appelle Framabook, sur laquelle voilà, vous avez le droit de copier les livres, de les revendre au prix que vous souhaitez, etc. On a fait on a le Framablog qui est un petit peu le courrier international du logiciel libre, et depuis maintenant 2-3 ans, on s'est orienté vers les services libres, donc typiquement Framapad, qui est un outil de rédaction collaboratif qui permet à plusieurs personnes de travailler sur un même texte de façon simultanée. On a Framadat, qui est un équivalent de Doodle, qui permet de faire des réunions, etc. Et la particularité donc de tout ça, c'est que et ça fait écho à une campagne qu'on a lancée il y a un mois qui s'appelle Dégooglisons Internet, parce qu'on pense que aujourd'hui Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. sont en train de complètement coloniser Internet.
Ouais, bah surtout qu'ils se concentrent, parce que c'est vrai qu'au départ, voilà. C'est marrant, parce que Google avait un petit peu l'image de la start-up. Donc voilà on,
moteur de recherche uniquement.
On joue au baby-foot, enfin les locaux, ça avait l'air très bon esprit. Et c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit y a beaucoup de personnes qui ont Gmail. On s'aperçoit que Gmail, toutes les données, voilà. Tout...
700 millions de comptes Gmail, deuxième capitalisation boursière mondiale. Derrière Apple, donc aujourd'hui c'est le numérique qui truste la bourse, c'est plus les industries, c'est pas General Motors, c'est pas ExxonMobil, c'est Apple et Google qui sont numéro 1 et numéro 2. Et donc, nous on essaye un petit peu de résister, donc c'est pour ça que Benoît parlait du Gaulois, on fait un petit peu Astérix, pas tellement vis-à-vis de la France, mais on essaye de montrer qu'il est possible de résister à la colonisation, on peut y aller, on est sur Radio Canu, la vassalisation d'Internet et des internautes face à ces multinationales, et donc on a lancé une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet, et qui vise sur les 3 prochaines années à essayer de mettre en face de chaque service de Google, et il y en a quand même facile une bonne cinquantaine, des alternatives libres, éthiques, décentralisées, ce qui est le but d'Internet, et solidaires. Donc, c'est pas seulement de dire vous n'aimez pas Facebook, allez sur Framasphere. C'est vous n'aimez pas Facebook, vous pouvez vous créer votre propre réseau social alternatif, comme nous on l'a fait en utilisant un logiciel qui s'appelle Diaspora. Et qui nous a permis de créer Framasphere, qui est aujourd'hui un petit réseau social qu'on a lancé le mois dernier et qui regroupe aujourd'hui 7000 personnes. Donc on peut montrer qu'il est possible de faire ça, et que si chaque association, mais si un certain nombre d'associations, de structures, même d'entreprises le font, on peut lutter contre ces géants si on s'y met tous collectivement.
Et par exemple, parce que je me posais la question, est-ce que les grosses administrations ou les services sensibles, je sais pas, gendarmerie, armée, etc., est-ce qu'ils sont sur Windows, ou est-ce qu'en termes de sécurité, ils se disent qu'il vaut mieux passer au logiciel libre?
Alors là, je vais essayer de la faire très très courte. C'est hyper varié, parce que ça dépend complètement. Disons, pour la faire courte, la gendarmerie est libre, globalement. C'est-à-dire, ils utilisent Thunderbird, qui est le client mail. ils utilisent LibreOffice pour, aujourd'hui, taper un procès verbal, des choses comme ça. Donc pour la gendarmerie, c'est plutôt libre. Pour ce qui est par exemple de l'armée, avec d'autres associations, notamment l'April, on dénonce un contrat qu'on appelle Open Bar, qui a été signé entre l'armée et Microsoft, qui dit en gros que l'armée fait un gros chèque à Microsoft et ils peuvent se servir complètement des logiciels Microsoft. Et nous, ça nous pose un souci évident. C'est pas tant qu'ils utilisent du Windows, c'est que derrière, malheureusement, il y a des vrais problèmes stratégiques de confidentialité. Enfin, l'idée que l'armée française utilise des logiciels américains doit forcément nous interroger. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. C'est pour des raisons économiques et sans doute On est vraiment sur Radio Canu, de corruption. Il y a probablement quelque chose qui fait que voilà derrière le, on se retrouve avec avec du Windows utilisé par les personnels de nos armées.
Et est-ce, alors je ne sais pas si ça, si c'était un projet ou si ça s'est fait, j'avais entendu que la mairie de Paris était passée sur Libre.
Oui, alors c'est, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que c'est un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, etc. Donc on s'en, c'est toujours assez difficile. C'est honnêtement les collectivités passent au Libre doucement. Là aussi parce que Microsoft et d'autres sont implantés depuis très très longtemps. C'est un sujet extrêmement complexe parce que voilà, c'est sûr que faire passer toutes les secrétaires, tous les personnels d'une collectivité, voilà, ça prend du temps, ça réclame de la formation, etc. On espère que cette démarche continuera à se faire. Il se trouve que, pour parler de la région, on a quand même des élus qui aujourd'hui promeuvent le logiciel libre au niveau de la région.
Ou dans les écoles, dans les lycées,
les écoles et lycées, c'est encore un autre cas. C'est au cas par cas. En gros, le directeur de l'école peut choisir d'utiliser plutôt du libre ou plutôt pas.
D'accord. Voilà.
Mais alors, c'est un combat de longue lutte, quoi.
Okay.
Et comme on dit chez nous, la route est longue, mais la voie est libre.
On va peut-être du coup parler de Mobiped.
Donc Mobiped, c'est une société de conseil en accessibilité et en mobilité durable que j'ai créée parce que je me déplaçais toujours à vélo quand j'étais à Lyon. Il y avait un laboratoire d'économie des transports à Lyon 2 où j'étais à la fac. Je me suis dit, bon ben, j'aime me déplacer à vélo et vu la pratique du vélo actuellement, ça devrait se développer. Et donc, on va dire que la philosophie, c'est tous les jours, chacun se déplace. La téléportation n'existe pas.
Dommage. Je travaille, mais ça marche pas.
Alors, ben justement, c'est là un petit peu le questionnement, c'est que ce que je veux sensibiliser, enfin, je veux sensibiliser les gens au plaisir que peut procurer le déplacement, que ce soit la conduite ou ce qu'on peut vivre quand on se déplace en termes de relations sociales, d'observation du paysage.
Donc aussi une relation à la vitesse, justement, du déplacement.
Tout à fait. Alors, donc les deux. Donc, à la base, je travaillais surtout sur les modes actifs, donc la marche et le vélo. Donc ce sont les modes pour lesquels on n'utilise pas d'autres moteurs que son propre cœur. On a sa propre énergie, on n'a pas besoin de pétrole. On fonctionne à l'eau et à l'alimentation. Et petit à petit, je me suis diversifié parce que c'est difficile de faire entendre la voix des modes actifs auprès des collectivités qui travaillent autour surtout de la voiture et des transports en commun. Et à travers une mission, et petit à petit, j'ai développé une activité autour de l'accessibilité, donc de considérer les situations de handicap. Il faut savoir qu'il y a les personnes en fauteuil roulant ne représentent qu'un seul pourcent des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de handicaps non visibles, et au cours de sa vie, il y a 40% de la population qui va se retrouver à un moment en situation de handicap, soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il a une baisse de vue. Les personnes âgées, c'est une baisse généralisée des capacités. Et donc, c'est comment créer un environnement qui soit plus favorable au déplacement responsable, on va dire, enfin respectueux de l'environnement et des personnes. Donc d'abord la marche, le vélo, les transports en commun, la voiture partagée, ensuite différents modes de livraison, plutôt des vélos cargo par exemple. Et donc concrètement, là je viens de travailler pour la SNCF sur la question de l'embarquement des vélos dans les trains. Pour le Grand Lyon, sur la signalétique de...
Donc dans les trains hors TER, parce que ça se fait un peu dans les TER dans
Oui,
les...
alors
dans
ça, les... ça se fait dans les TER, donc il y avait les TER, les TGV, les intercités, et voir comment améliorer ces conditions. Je travaille donc pour le Grand Lyon sur le centre de Lyon-Perrache, donc qui est assez complexe, beaucoup d'entrées, difficile de se repérer. Et donc on a travaillé sur le dispositif d'orientation, sur la signalétique, quand on rentre dans Perrache ou quand on est dans Perrache ou quand on prend l'ascenseur. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens au quatrième étage de Perrache, au niveau des jardins, qui cherchaient les bus. Voilà, c'est assez révélateur des difficultés qui sont.
Et à l'inverse, moi j'ai découvert les jardins il y a pas longtemps parce qu'il y avait une enquête et qu'on passait justement ils nous en ont parlé, et c'est vrai que ce centre, alors c'est vrai qu'après il est La gare était magnifique, le centre, ça fait vraiment verrue, et c'est vrai que pour s'y retrouver, c'est vraiment un labyrinthe moderne, quoi.
Voilà, donc c'est dans cette démarche d'accessibilité, de conception universelle, donc j'ai travaillé avec Diversities, qui est une autre société de conseil en accessibilité, sur comment faciliter la compréhension globale du site, en distinguant le centre d'échange, la passerelle et la gare de Lyon, et en donnant des informations à chaque point d'entrée et de prise de décision. Donc là, c'est un projet qui est en cours.
Et qui est lié, parce qu'ils vont refaire, il y a un gros projet pour refaire l'esplanade, etc. Donc c'est,
alors,
c'est
je ne sais pas si ça a été encore validé au niveau du projet, au niveau de la nouvelle mandature. À voir.
D'accord.
Et avant, il nous reste combien de temps encore?
3-4 minutes, mais vous avez des dates ou des événements qui vont arriver, il faudra...
Je voudrais juste parler d'une date, mais après, je laisserai Benoît compléter. C'est pour les gens qui voudraient venir nous rencontrer. Donc Benoît l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle, on organise tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, à partir de 18h30, un apéro découverte dont le thème peut varier. Donc là, le prochain, celui du mois de décembre, ce sera un collectif, le collectif TADA, qui vient de se former justement entre anciens de locomotive à locomotive.
J'ai l'intitulé exact que Emma m'a transmis tout à l'heure.
Et est-ce qu'il y a la date qu'on calcule pas?
Le 4.
Le 4 décembre. Et donc TADA, c'est un collectif spécialisé dans la communication non marchande. Et ils font de la communication didactique, ludique et participative.
Voilà. Et donc, si vous voulez venir nous rencontrer, si vous ne pouvez pas être là le 4 décembre, bah, revenez le premier mercredi du mois de janvier, le premier mercredi du mois de février, etc. En gros, à partir de 18h30, et évidemment, allez voir sur le site locomotive.fr, et vous aurez de l'information. Voilà. Et sur les autres rendez-vous.
Donc, samedi 15 novembre, Mosaïque RH, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité, sera présent au forum de l'emploi solidaire qui aura lieu à l'hôtel de région à Confluence de 10h à 17h. Le 19 novembre, les inattendus, donc là c'est des structures qui sont présentes à Locomotive. Les inattendus, donc qui organisent tous les deux ans un festival de cinéma très indépendant. Organise La Ville en cours, donc c'est une projection de 6 courts-métrages de 1925 à 2014, le mercredi 19 novembre à 19h30 à la salle des Rancis, dans le 3e. Donc c'est 249 rue Vendôme. Non, ça je pense que c'est pas la même.
Rue Vendôme.
Non, c'est
Maison des Rancis. Je vais chercher sur un autre moteur de recherche que Google.
On est d'accord.
Voilà,
c'est rue Vendôme? Ok, bon, c'est 249 rue Vendôme. Et ensuite, le 22 novembre, donc il y a le goûter découverte dont on a parlé tout à l'heure avec Patatras, où les enfants dessinent par rapport à une thématique et c'est ensuite publié dans le magazine. Et puis le 4 décembre, t'en as parlé. Et puis voilà, il y a le jeudi oui qui aura lieu le 20 novembre sur les MOOC. Voilà pour.
Et les jeudis oui sont ouverts.
Les jeudis oui comme les apéros découvertes sont évidemment ouverts à tous.
Il faut toquer à la porte. On est tous là en bas.
Voilà.
Donc, et la lumière, il y a du bruit.
Amenez votre manger et laissez-vous porter par la thématique du jeudi oui. Voilà qui la semaine dernière c'était sur la ferme des 1000 vaches. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement variés. Faut pas hésiter à venir se renseigner justement sur
il y a une exposition sur les préjugés sur les pauvres qui était très intéressante également.
Eh ben on va terminer. Ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Melroots.